La justice. Psaume 89, verset 14, est écrit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Je répète, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Dieu aime le droit et la justice avec passion. Il n'aime pas un peu comme on aime le chocolat ou on aime des choses superficielles. La parole de Dieu dit qu'il aime avec passion le droit et la justice. Le trône de Dieu, de très rares personnes peuvent le voir avant même que nous le verrons un jour tous. Nous verrons le trône de Dieu. La présence de Dieu. Vous voyez, là, cette image, je l'aime bien parce qu'on ne voit pas Dieu, il est lumière, etc. Et tous ceux qui ont pu avoir la chance d'avoir déjà une expérience du trône de Dieu. Paul, quand il parle du troisième ciel, il est allé devant le trône de Dieu. Eh bien, tous ceux qui ont fait cette expérience, ils disent qu'on est tétanisé parce qu'on sait que Dieu sait tout sur nous. En particulier, c'est un des éléments. Hein, bon, c'est-à-dire que voilà, Dieu est lumière hein, et il nous transperce de sa lumière. Et la justice et le droit sont la base de son règne, de son trône, la manière dont il règne. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit enseigné sur ce que c'est réellement la justice de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut revendiquer cette justice, parce que vous verrez qu'elle est pour nous. J'aimerais signaler quelque chose d'important, moi qui m'a frappé, c'est que l'Église, le mot Église, qui est important, ici c'est l'Église, voilà. Jésus le prononce 4 fois. Pas grand-chose. Très important, 4 fois. Le royaume de Dieu, il est prononcé par Jésus 100 fois. Le royaume de Dieu est ici, etc. Voilà. Donc c'est vrai que l'enseignement du royaume est important. J'ai fait dans le passé, et je vais le refaire, parce que j'avais pas fini le cycle sur le royaume de Dieu. Donc je vais le reprendre, parce que c'est la manière dont Dieu règne. Dieu règne aujourd'hui, Dieu règne dans nos cœurs, Dieu règne dans la société, dans le monde, et règne en général sur toute chose. Mais la justice est signalée 400 fois. 400 fois, elle est mentionnée dans la Bible. Donc, vous voyez, l'importance de la justice. Et très souvent, on n'y prête pas trop attention. Il n'y a pas beaucoup de prédications sur la justice. En tout cas, comme celle que je vais faire devant vous. Vous savez, il y en a qui disent, ouais, la justice, c'est pour le jugement dernier. Il y aura une justice. Bon, ça, tous les chrétiens savent qu'il y aura le jugement dernier où nous-mêmes, on passera devant le trône de Dieu, devant la justice de Dieu. Et là, il fera la séparation entre les boucs et les brebis, etc. Et il vaut mieux être une brebis qu'un bouc, voilà. Donc voilà, tout ça, on en a entendu parler au niveau du jugement dernier. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que la justice doit s'accomplir aujourd'hui. Et vous avez besoin de la justice. Il y en a qui disent, oui, non mais il faut parler de la grâce. Mais je crois qu'à force de parler de la grâce, et que de la grâce, eh bien, on oublie la justice. Vous savez, je pense que vous comprenez, quand vous êtes pris, et d'ailleurs on le voit, quand les gens sont privés de justice pour une raison ou pour une autre, ils ont envie que le procès ait lieu, ne serait-ce que pour que, en tant que victime, ils soient reconnus. Vous voyez, c'est un besoin vital. Pour celui qui, le chrétien dit, ouais non, moi je m'en fiche, la justice, etc. Bon, bah pourquoi pas, si on vous vole, je sais pas, vos affaires, vous allez dire, oh non, c'est pas grave, la grâce de Dieu, ils n'ont qu'à me voler ma voiture, pourquoi pas ma femme, pourquoi pas mes enfants, pourquoi pas, voilà. Et ça se termine comment? Dans le désespoir. Dieu veut pas qu'on soit dans le désespoir. Donc il y a une justice qu'il faut réclamer. Et Dieu est un Dieu juste, et la base de son trône, il veut que la justice soit faite. Donc vous voyez, quand il y a une injustice qui nous est donnée, Et je suis sûr que vous avez tous été victimes d'une injustice. Que ce soit justice de la vie en général, hein, santé, voilà, c'est une injustice, vous êtes malade, etc. Voilà. Donc on cherche quelque part une justice, que justice soit faite. Et très souvent, le chrétien dit « Non, non, je veux pas de justice, je veux pas de justice, ce sera la fin des temps. » Non, Dieu veut aujourd'hui te faire justice. Aujourd'hui te faire justice. Et aujourd'hui, Dieu veut vous venger. La vengeance est interdite pour un être humain, pour un chrétien encore moins, etc. Mais Dieu veut nous venger. Voyez, la vengeance de Dieu, parce que la vengeance de Dieu est juste. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, eh bien Dieu, il est parfait. Donc lui peut vous venger. Voyez, et il faut demander cette vengeance sur nos adversaires, sur notre ennemi. Sauf qu'il faut faire attention quel ennemi on désigne, et je vais en parler plus loin. Eh bien, aujourd'hui, vous pourrez demander justice quand vous aurez compris l'enseignement que je vais apporter. Dans Psaume 37, verset 28, il est dit « Car l'Éternel aime avec passion la justice, ce qui est juste, et il n'abandonne point ses bien-aimés, c'est pourquoi ils sont gardés à toujours. » Je le répète parce que, vous voyez, comme la notion de justice, on essaie de l'éviter. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que vous êtes gardés par Dieu. Vous êtes bien aimé de Dieu et Dieu ne vous abandonne pas. Si vous avez été injustement traité d'une manière ou d'une autre, Dieu vous fait justice. Il n'abandonne point ses bien-aimés, c'est pourquoi ils sont gardés à toujours. Si j'ai subi une injustice et je reconnais que ça ne vient pas de Dieu, alors ça c'est important, la position, quand on est victime d'une injustice, il ne faut absolument pas s'en prendre à Dieu. Parce que la première chose, c'est pour ça souvent on ne veut pas de justice, parce qu'on dit « Ah non, mais c'est Dieu ». Non, Dieu n'est pas injuste et ce n'est pas lui qui vous envoie la justice. Mais il faut reconnaître que ça vient de l'ennemi. L'ennemi qui nous déteste, qui veut notre mort. Mais il faut savoir que j'ai une possibilité de réclamer justice auprès de Dieu, car il aime rendre la justice. Il faut savoir que Dieu aime. Autant il vous aime tout court, autant il aime vous faire justice, vous rendre justice. Et il faut le savoir. C'est la base de son trône. Regardez Job. On en reparlera un peu plus tard. Dans Job 42, la fin de Job, eh bien, Job est rétabli au double de ce qu'il avait avant. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il a vu son serviteur. Il a été attaqué injustement, pour des raisons qu'il faut étudier dans Job, mais il a été rétabli au double. Dans Psaume 37, 28, il est écrit « L'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses bien-aimés, ils sont gardés à toujours. » Dans Psaume 37, verset 3, il est dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Ce sont des promesses. Dans Psaume 103, l'Éternel fait justice et droit à tous ceux à qui l'on a fait tort. Est-ce que ce matin, il y a des gens à qui on a fait tort? Levez la main pour voir s'il y a juste une personne. Voilà. Donc ce message vous concerne. L'Éternel fait justice, te fait justice, te fait droit, parce que tu es son bien-aimé. Et c'est la base du trône de Dieu. Alors comment obtenir la réparation de la justice? Ça, c'est important. Eh bien, il faut comprendre comment fonctionne le système judiciaire céleste. Et en fait, il fonctionne pareil que sur la terre. C'est pour ça que vous allez comprendre si je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple des victimes du drame du World Trade Center aux États-Unis. C'est les tours jumelles qui sont tombées le 11 septembre 2001. Vous vous rappelez tous ? Tout le monde l'a vu sur les écrans. Eh bien, il y a eu une justice qui a été faite là-dessus. Il y a eu un tribunal, et en dehors des gens qui ont été attrapés, pour certains qui étaient à l'origine, d'autres sont morts, mais il y a eu un jugement, un accord qui a été fait pour dédommager les victimes. Vous voyez ce que je veux dire, une victime ? Si vous êtes victime, vous savez très bien que le dédommagement, ça fait du bien. Hein ? Comment les victimes sont dédommagées ? Eh bien, ces victimes, il a été établi que la justice a établi que les victimes auront un dédommagement de 3,6 millions de dollars. 3,6 millions de dollars, c'est le verdict tac, du tribunal, mais sous condition. Et là, je vous demande de bien observer ce que je vais dire, parce que ce sont les conditions qu'il faudra que nous aussi, on puisse satisfaire pour obtenir la restauration, la restitution de ce que l'ennemi nous a volé. Alors, la première condition, c'est d'être reconnu éligible. Parce que vous savez, dans ces cas-là, tout le monde se présente. « Ah, moi, je veux les 3,6 millions de dollars, etc. Bon. » Non, il faut être éligible. Il faut répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Bon. Deuxième condition, c'est de remplir la forme. Oh, vous savez, la forme, je sais que Oscar m'a dit hier, « Oh là là, pour David, tout ça, j'ai fait toute la matinée pour remplir la forme administrative, les formulaires, il demande un tas de choses, etc. Voilà. » Mais là, c'est pareil. Celui qui est victime de cette catastrophe, les 3,6 millions de dollars, s'il ne remplit pas la forme, il peut les avoir. Il faut passer par ce que le jury, le tribunal a décidé. Ensuite, il faut passer devant un jury qui va décider. Donc, il va vous poser des questions. Il va voir si ce que vous avez écrit sur la forme est vrai par rapport à ce que vous dites, si vous ne mentez pas, parce que ben là, il y a toujours des gens qui veulent profiter de l'argent, etc. Donc, il faut passer devant un jury. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a, la quatrième ? Ben, il faut attendre. Il faut attendre la décision. Ce n'est pas vous qui vous attribuez l'argent. C'est ce jury qui a été désigné par le tribunal qui va vous attribuer. Vous voyez, il faut que les quatre conditions soient remplies. Et avec Dieu, c'est pareil. Vous allez voir, dans le tribunal de Dieu, vous pouvez être restitué de tout ce que l'ennemi vous a volé. Mais il faut remplir des conditions. C'est normal. Alors, Dieu, il faut partir du fait que Dieu est juste. Il y en a qui sont d'accord avec ça ? Vous croyez que Dieu est juste ? Il est juste et bon. C'est un juge qui assure la justice en tout temps. En tout temps. Quel que soit, il n'y a pas un bon, un mauvais temps. Non, non. Dieu, il assure la justice. Il vous assure la justice parce que vous êtes ses bien-aimés. Et vous savez, le marteau, ça s'appelle un gavel. Je ne savais pas, bon, aux États-Unis, ça s'appelle un gavel. Chez nous, c'est le marteau ou le gavel. Voilà, c'est un ancien mot français. Donc, il a le gavel. Et là, il décide, vous savez, quand tout le monde, tout le tribunal a fait passer les avocats, etc. Et il prononce le verdict, coupable ou pas coupable. Voilà. Pour celui qui est présenté comme étant celui qui a fait le larcin, il y en a qui sont à tort prévenus, et d'autres ne le sont pas. Donc lui, il décide, et ensuite après, eh bien, il décide des dédommagements. Fais confiance au juste juge, le Tout-Puissant, et il te rendra justice de toutes les injustices subies, et tu donneras gloire à son nom. Voilà, ça c'est le message ce matin pour chacun d'entre nous. Dieu va nous rendre justice. Alors, il faut revenir un peu dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, le Nouveau, c'est la même chose. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Sauf que dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour nous sauver. Mais Dieu n'a pas changé. Donc, l'Ancien Testament nous apprend aussi comment fonctionne la justice de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, comme je vous ai dit, ça parle 400 fois, la justice. Donc je ne peux pas vous dire tous les 400 versets. Mais là, je pensais qu'apparaissait la référence, c'est en Proverbe. Si on trouve le voleur, hein, celui qui vous a volé, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Cette fois, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc, vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu enseigne à son peuple la justice, comment lui fonctionne dans la justice. Et à ce moment-là, eh bien, ce verset, et puis l'ensemble de l'enseignement, dit que quand on attrape le voleur, le problème, c'est qu'il faut l'attraper. Voilà. Si on ne l'attrape pas, vous ne pouvez pas dédommager, parce qu'on va prendre chez lui, ce voleur-là, eh bien, les sept fois, donc déjà ce qu'il a, et ensuite après, on va peut-être le mettre aux travaux forcés, j'en sais rien. Enfin, l'Ancien Testament, il y avait les sages qui décidaient, pour que vous puissiez être remboursé sept fois. Alors, la prochaine fois, je vais vous expliquer pourquoi sept fois. Ce n'est pas que vous allez être remboursé de ce qui vous a volé, vous allez recevoir six fois plus. Six fois plus. Oui. Donc, ça vaut le coup quand même de réclamer la justice, non? C'est d'être remboursé cette fois. Alors, le Nouveau Testament, c'est pareil, il faut attraper le voleur. Alors, comment est-ce qu'on attrape le voleur dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, c'était physique. Hein. Merci, Paola. Dans l'Ancien Testament, c'est physique. Il fallait chercher le voleur, courir après, le saisir. Et ensuite, après, soit il avait les biens qui vous donnaient cette fois, etc. À votre avis, j'aime bien l'interaction. C'est pas méchant. Hein. C'est pas que je veux vous coincer, mais bon, des fois, quand on réfléchit, c'est plus facile si je vous donne la réponse. À votre avis, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi attraper le voleur? Il y a quelqu'un qui a une idée? Peu importe. Ah. C'est sur la piste, là. C'est sur la piste. Dans le Nouveau Testament, le voleur, c'est pas des gens. Les gens, malheureusement, ce sont des victimes du diable, de Satan, de Lucifer, de ce que vous voulez. Enfin, voilà. Vous voyez ? Parce que dans le Nouveau Testament, on est un peuple de sacrificateurs, de le cœur, parce que les lois s'écrivent dans nos cœurs. C'est pas le temple de Jérusalem, le peuple physique, les juifs, etc. Voyez, on a changé de régime. On est dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui a été donné à chacun d'entre nous le jour où on est devenu chrétien, devenu chrétienne, où on s'est engagé par le baptême. Et ensuite, Jésus lui-même a montré l'exemple. Le jour du baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, après, le Saint-Esprit l'a conduit au désert, dans la tentation, et etc. Donc, nous, on devient chrétien par l'action du Saint-Esprit. Donc, on devient le temple du Saint-Esprit. Et là, le voleur qui veut nous voler, c'est Satan. Exactement comme il a fait avec Jésus. Jésus, la première chose qui s'est passée dans sa vie, après avoir pris le baptême, c'est la tentation dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a tenté? Le diable, ce n'est pas des gens. Ce n'est pas des gens. C'est le diable. Il y en a qui ne croient pas au diable, c'est un principe. Non, le diable, c'est une créature. C'est une créature qui s'est rebellée contre Dieu, mais c'est une créature spirituelle, céleste, voilà. Mais c'est une créature, il n'a pas de corps, il peut prendre une apparence. Hein. Pas de corps, mais c'est une créature rebelle à Dieu et qui veut nous rendre rebelles aussi, comme lui est rebelle. C'est une influence spirituelle. Donc, attraper le voleur, c'est attraper le diable. Hello ? Ça prend du sens ? Oh, c'est pas attraper sa queue, hein, vous voyez, comme les images qu'on peut voir, l'image d'Épinal. Non, mais attraper le diable. Et je vais vous expliquer comment il faut attraper le diable. Déjà, quand vous êtes dans une injustice, quelque chose qui vous a été volé, il faut dire Seigneur, il faut se placer devant le Seigneur, il faut être transparent avec Dieu. Il faut dire Seigneur, je sais que ce n'est pas toi qui m'as volé. Vous voyez ? Il ne suffit pas de dire, ouais, je sais que ce n'est pas Dieu. Non, non, il faut dire, Seigneur, je sais que ce n'est pas toi qui m'as volé, c'est l'ennemi. C'est le malin qui l'a fait. Alors, fais-moi justice. Vous voyez, il faut s'adresser directement à Dieu. Le trône de Dieu, il est basé sur la justice et le droit. Si on vous a volé, eh bien, sachez que, oubliez les gens. Les gens, ce sont que des marionnettes entre les mains de l'ennemi. Des marionnettes. On peut les plaindre, que Dieu leur ouvre les yeux, mais c'est l'ennemi qui est derrière. Donc il faut dire à Dieu, Seigneur, non, je ne veux jamais dans mon cœur que j'accepte que ce soit toi qui m'as volé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Tu ne voles personne. Mais c'est celui que Jésus lui-même a dit, c'est le voleur, c'est le meurtrier. Voilà. Et donc il faut utiliser la parole pour affirmer que bien, vous allez attraper le voleur en le désignant nommément. Si on ne réclame pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des conditions de réclamation pour obtenir la restauration et la restitution. Eh bien, si on ne réclame pas à la manière décrite par Jésus, comme la veuve avec le juge unique, on ne profitera pas des modalités obtenues dans la cour de justice de Dieu, parce que Dieu, il rend justice. Je vais vous expliquer comment il rend justice tout à l'heure. Mais une fois qu'il a rendu justice, ça veut dire que vous devez être restitué après cette prononciation de justice. Et l'argent, ça peut être une restitution morale, ça peut être une restitution de toutes sortes de choses, eh bien, vous attend. Mais vous savez, si, je prends un exemple, si votre grand-père a été volé, je ne sais pas, 1 million d'euros, bon, admettons qu'il soit très riche, votre grand-père, voilà, et la cour de justice a attrapé le voleur, alors là je reviens sur un aspect humain, hein, attrapé le voleur, les 1 million ont été restitués, et ils sont dans la banque, voilà. Mais que ce grand-père ne soit jamais allé les chercher. Vous, votre vie aurait été changée, hein, s'il avait cherché les 1 million d'euros. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu rend justice, il définit les conditions de restitution pour vous les rendre. Et c'est à nous de les prendre. Si on ne les prend pas, comme tout à l'heure, il y avait les 4 conditions. Vous voyez, être éligible, remplir la forme, voilà, passer devant un jury pour que voilà, cet argent ne soit pas donné à n'importe qui, mais vous qui êtes victime. Et ensuite, après, eh bien, il faut attendre et prendre l'argent. Prendre l'argent, ou je dis, c'est une rétribution de tout ce qui vous a été volé. Etc. Dans Luc, chapitre 18, donc, il dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Il y a cet enseignement, il faut que vous le méditiez. Il y a une veuve, cette veuve qui était il n'avait déjà pas d'argent, elle était veuve, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de rentrée, etc. On lui vole tout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir le juge en pleine nuit. En pleine nuit, parce qu'elle était désespérée, quoi. Et donc, elle va voir le juge en pleine nuit, je ne sais pas, 2 heures du matin, et elle cogne. « Juge ! Juge ! Lève-toi !» Le juge dit « Non, 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 tu viens demain à 10h, je tiens mon tribunal, tu viendras, il n'y a pas de problème. » Elle dit « Non, viens, je veux que tu viennes, je veux maintenant que tu me rendes justice. » Vous voyez ? Je lui dis « Mais non, je vais te dire, laisse-moi tranquille, je veux dormir. » Et continue. Et qu'est-ce que dit Jésus dans la parabole ? Il dit « Mais il en a tellement marre. » Que finalement, il va lui ouvrir et lui rendre justice. Mais c'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux que justice soit rendue. Je veux que justice soit rendue. Et quand il voit ça, eh bien, il voit que vous êtes déterminé à récupérer le bien qu'on vous a volé. Amen. C'est la parabole de Jésus, voilà. Et parfois, on n'ose pas. Alors, le problème, c'est que parfois, on n'ose pas demander. Ah, je comprends. Hein. Pourquoi ? Parce que devant un juge, vous savez, on se dit, waouh, si on a fait quelque chose de mal par ailleurs, Le problème, c'est qu'il faut être clean quand on fait ça. Ouais. C'est pour ça que je crois qu'un chrétien, s'il n'est pas clean, enfin, vous voyez ce que je veux dire, propre sous tous aspects, c'est-à-dire que, voilà, si au travail, on vous propose un truc qui n'est pas... Bon, bah, d'accord, vous faites... Ok, vous êtes pas innocent, et vous dites, ah, peut-être le juge va m'attraper pour ça, le juge va peut-être m'attraper sur ça, etc. Voilà. Donc, du coup, vous êtes hésitant à aller devant le cour de justice. Mais si vous êtes innocent de tout, eh bien... Vous pouvez voir le juge et réclamer votre bien. Donc, effectivement, il faut bien faire attention de toujours être. Alors, je prends le cas de Job. Le cas de Job, vous connaissez le cas de Job, le livre de Job. Eh bien, Job s'est fait évaluer injustement par Satan. Et on voit bien que Job était un homme juste devant Dieu. Mais Satan voulait voir jusqu'où il pouvait le taquiner, je dirais, jusqu'au point de prendre sa santé, etc., pour qu'il renonce à Dieu. Et sa femme lui a dit, bah, écoute, renonce à Dieu, ta vie serait beaucoup mieux, etc. Ben, jusque sa femme, il était encouragé, effectivement, à renoncer à Dieu. Eh bien, non, il est resté ferme. Mais il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus. Et pour faire court, les deux derniers chapitres, 41 et 42, sont extraordinaires. Parce que là, il réalise enfin qu'il y a Satan derrière. Jusqu'à présent, il y avait les amis qui lui disaient « Non, mais Job fait ceci, Job fait cela. » Et voilà, il y avait tout un tas de conseils, plus ou moins avisés, etc. Et le dernier chapitre, eh bien, Dieu lui dit « Attends, je vais te dire quelque chose. » Voilà, je vais te dire quelque chose. Tu vois Satan, là. Alors, il l'appelle hippopotame, crocodile, voilà, bon, les noms de Satan. Il a dit, mais tu crois qui c'est celui-là? Tu crois qui c'est Satan? Tu crois que tu vas aller à la pêche comme ça avec un hameçon et tu vas l'attraper? Mais tu comprends pas. Satan, c'est moi qui l'ai créé. C'est Lucifer, celui qui porte la lumière, qui était dans la louange, etc. Voilà. Et je ne lui ai pas retiré son pouvoir. Dieu, il n'a pas retiré son pouvoir. Sauf qu'il l'a écarté de son trône. Il a dit, non, tu ne... Et puis à la fin, il va l'enfermer. Donc il continue d'agir avec puissance, avec un pouvoir. Ce qu'il faut, c'est lui échapper. Et pour lui échapper, bah, il faut éviter le péché. Sauf qu'on pêche tous. Donc comment faire? Bah, c'est toute la question de comment être restitué. Donc Job, à la fin, quand Dieu lui a dit « Qui est Satan ?» Eh bien, Job a dit « Mais écoute, là... j'ai rien compris. Toute ma vie, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment la vie fonctionne. Et maintenant, je baisse les bras et je réclame que justice soit faite. » Ah, le brave Job. Le brave Job. Mais il a demandé justice à Dieu. Et Dieu lui a fait justice. Amen. Job 42, verset 1. Alors Job répondit à l'Éternel. Là, enfin, Dieu parle. Alors comment c'était les amis, etc. Il dit, je sais... Donc Job dit, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Voilà un aveu de quelqu'un qui est devenu humble pour dire, Seigneur, j'ai compris que Satan, je ne peux rien contre lui, il n'y a que toi qui as autorité sur lui. Donc maintenant, je contemple tes merveilles, tu me fais justice et tu fais ce que tu veux. C'est à cela qu'il voulait nous allumer. Et Dieu s'est fâché contre ses amis. Dans le verset 7, Dieu dit à Élipas de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » Parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job, mon serviteur. La droiture, c'est de reconnaître que c'est Satan le voleur, c'est pas Dieu. Alors que ses amis discutaient, oui, Dieu, ceci, cela. Non, il faut être clair, Dieu n'est pas injuste, il est bon, juste et droit. Mais c'est Satan. Et Job, dans 42, verset 10, « Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens. » Et quand tu lui priais pour ses amis, c'est lui qui a dû prier pour ses amis, pour que Dieu enlève sa colère sur eux. Eh bien, il lui rendit au double de tout ce qu'il avait auparavant. Ça, c'est la justice que Dieu fait à ses bien-aimés. Alors, je vais vous donner un exemple et je m'arrêterai là, parce que après, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur la justice, mais je veux rester simple pour que chaque étape, vous puissiez la mettre en pratique. Le Seigneur aime notre communauté, comme il aime toutes les communautés. Toute communauté qui est remplie de chrétiens, c'est sacré. C'est la prunelle de l'œil de Dieu, on ne peut pas y toucher. C'est quelque chose de sacré, parce que Dieu rassemble ceux qui sont sauvés par grâce. Et ça, c'est la propriété du Christ, qui lui rassemble un seul corps de tous les temps et de tout l'univers. Et donc, cette communauté qui est remplie de personnes, hommes, femmes, enfants, etc., qui aiment le Seigneur, eh bien, aime cette communauté. Et cette communauté est appelée à être un phare. C'est ce pourquoi maintenant je vais me consacrer pour cette région. Et Dieu a rendu justice, et je vais expliquer comment, en 1998, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, dans cette église, et c'est là que j'ai appris à demander justice à Dieu. C'est là que Dieu m'a appris, ce qui m'a permis de mettre en pratique durant ces 6 derniers mois. Alors comment il a fait ? Eh bien, tout simplement parce que en 98, j'avais pas assez d'expérience, j'ai fait des bêtises, c'est vrai. Michel aussi, bon, qui fait pas de bêtises, bon, on fait des bêtises. Et Satan a voulu utiliser ces bêtises pour m'éliminer, pour que j'arrête d'être pasteur de cette église. Alors que l'inauguration de ce lieu venait juste d'être faite. C'était en 98, fin mai, je crois, le 24 mai, ça s'est passé. Et au mois de juin, eh bien, l'ennemi a attaqué. Et je sais que là, il a pris tout le cas qui me concernait, et il est rentré devant le trône de Dieu, dit Dieu, voilà le cas d'André, juge. Comme ça que ça se passe. Seigneur, Dieu, Satan, il va devant le trône de Dieu. Il dit juge. Il fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il fait toujours comme ça. Il dit, attends, je vais me retirer. Il s'est retiré de son trône. Il est attendu. Il est attendu. Qu'est-ce qu'il a attendu? Que je me repente. Alors il a attendu. Moi j'ai dit, ouais Seigneur, c'est pas juste, Seigneur, c'est pas juste. Bah, tu vois ce qu'il a fait. Ouais, je sais que c'est l'ennemi, etc. Voilà. Donc moi j'étais là, etc. Il a attendu. Ouais, j'en ai marre. Et puis, de toute façon, j'en ai rien à faire de cette église, parce que, voilà, j'ai un travail dans le monde, tout ça, et voilà, j'ai aucun intérêt à servir ici, tout ça. Et je lui ai expliqué tout ça. Seigneur, attendez. Et là, avec Michel, début juillet, on a dit, Dieu. On a crié à Dieu, on a pleuré, Seigneur, pardon. Et pendant un mois, des fois jusqu'à 4 heures du matin, on n'a plus mangé, on n'a plus rien. On a dit, quoi? Continue. On a continué. Et là, le Seigneur a commencé à dire, là, je peux faire justice. Alors il dit, ok. Il est revenu. Il y avait toujours Satan qui était là. Voilà le cas d'André. Pas coupable! Paf! Ah oui, attends, Satan, il dit, attends. Il a fait ça. Et quoi? C'est quoi le cas? Si ça existait, il n'existe plus. Je vois rien, moi. Satan, il l'a renvoyé. C'est comme ça que ça s'est passé. Je sais. Dieu me l'a montré. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? Ben, une fois que la justice est rendue, il faut restituer. Bon. Donc, Dieu a dit, et donc nous, Michel et moi, on s'est placés devant Dieu en disant, ok, bon, il n'y a plus de cas, il n'y a plus de cas d'André Michel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on avait démissionné de pasteur. On a dit non, on ne peut pas continuer comme pasteur puisqu'on est, on est accusé, tout ça. Et après la repentance, au mois d'août, Dieu nous a dit, eh bien, vous reprenez votre place de pasteur. Ah bon ? Il dit, oui, mais attention, c'est toute l'Église qui doit se repentir maintenant. Toute l'Église. Vous, ok, mais l'Église, elle a un cas aussi. Et si elle ne se repent pas, on ne peut pas la bénir. Parce que quelques temps avant, peut-être un mois avant, il y avait ici, là, on a vu une épée, une grande épée qui faisait toute la hauteur, qui était là. L'épée Damoclès, vous avez vu ? C'est une épée du jugement. Donc Dieu était prêt à juger l'Église. Et donc, il a dit, il faut se repentir. Il a dit, ok, comment on fait ? Ah bah, il a dit, bah, tu demandes à l'Église de se repentir. Donc on est arrivé ici, c'était mon anniversaire, le 5, dimanche 5 mai, 5 septembre, pardon. Et j'ai dit à l'Assemblée, bah, écoutez, voilà, moi et ma maison, on servira à l'Éternel. Dieu nous a demandé de reprendre le poste de pasteur. J'ai demandé à Michel de venir, aux enfants et tout ça, ils sont venus devant. On a dit, voilà, Dieu nous a dit ça, donc on continue. Maintenant, vous vous choisissez, ou vous nous suivez, ou vous partez. Voilà, il faut à un moment donné qu'il y ait une séparation qui soit faite. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les choses se sont clarifiées, mais on a quand même eu un an de combat spirituel. Ça a été un an de combat violent qui s'est engagé et où j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le combat spirituel et qu'aujourd'hui, je peux transmettre. Et au bout d'un an, donc en 99, eh bien, un an après, la situation s'est clarifiée avec le départ de personnes opposées à notre ministère et à notre Église. Et on a pu fonder EPEA. Avant, c'était CCY. On a pu fonder avec l'aide de Ricardo, qui est venu de nulle part. D'un seul coup, un monsieur qui arrive, Ricardo. Et lui m'a aidé à établir les bases juridiques de cette Église avec de nouvelles personnes, une nouvelle dynamique pour entrer dans la destinée du phare. Et là, Dieu nous a redonné tout ce que nous avions perdu auparavant. Et on a pu effectivement établir cette Église. Sauf que aujourd'hui, on a vécu un peu la même chose, sauf que là, j'étais averti. Je savais comment marchaient les choses. Donc, moi, personnellement, j'ai dit, ah, ok, je sais comment on peut obtenir la justice. Et voilà comment j'ai fait. Parce que ces dernières années, le malin nous a volé beaucoup de choses. Pas d'argent, mais beaucoup de choses ailleurs, de valeur, etc. Et j'ai reconnu que c'était le malin. C'était, oh là là, je ne vais pas m'en prendre aux gens. C'est le malin qui est toujours derrière, parce que voilà, on est attaqué par l'ennemi. Et j'ai dit, Seigneur, tout ce qui se passe là, c'est injuste. Je n'accepte pas ça. Il faut que tu rendes justice. Il faut que tu rendes justice. Et pour ce faire, je sais comment ça fonctionne. Hein. Satan est venu. Voilà, Dieu, tu vois ce qui se passe dans cette église. Eh bien, fais justice. Voilà. Moi, je dis, attends, on va lui couper l'herbe sous les pieds. Et comment j'ai fait ? Eh bien, tout simplement, j'ai appliqué ce que j'ai appris. C'est que j'ai conduit deux repentances, parce que je sais que c'est la repentance, moi je l'ai vécu, l'Église l'a vécu, la repentance efface tout. Efface tout. L'ennemi est l'accusateur. Mais quand on vient devant le trône de Dieu, on lui réclame justice, qu'on se repent, qu'on demande pardon, qu'on dit, etc., eh bien, le Seigneur, on devient innocent devant Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est qu'en fait, on est reconnu comme ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on va pécher volontairement. Vous savez, des catholiques, une fois, qui m'ont dit, avant de prendre l'Eucharistie, je ne sais pas quoi, bien, ils prêchent exprès avant pour avoir une occasion d'aller à confesse, etc. Voilà, donc, voilà. Non, ça, c'est jouer, jouer avec Dieu. Ce n'est pas ça. C'est que, voilà, on est imparfait. Les pasteurs sont imparfaits. Moi, je suis imparfait. Oscar, Paola sont imparfaits. Donc, il faut faire grâce, mais en même temps, il ne faut pas leur tomber dessus en les accusant comme l'ennemi va le faire. Oui. Il faut être solidaire. En disant, on va se repentir tous ensemble, parce qu'on est tous dans le même bateau. Oui. Et donc, en septembre 2022, j'ai convoqué une semaine de repentance, qui ne s'est pas très bien passée en finale, mais bon, c'était le premier coup. J'ai dit, je sais comment marche le trône de Dieu, la justice de Dieu. Et 1er janvier, j'ai dit, on va refaire une repentance. Et on a fait une semaine de repentance. Et là, tout a changé. Là, tout a changé. Parce que l'ennemi qui était là, « Ouais, regarde le cas de Vergin, regarde ce qui se passe. » Il a dit, après la repentance, « Où il est le cas ?»« Je ne le vois pas. Je le vois pas. Je vais bénir cette église, je vais restituer tout ce qui leur a été volé. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé comme en 98. Parce que tu es fidèle. Et sa cour de justice, elle marche toujours pareil. Sa manière de juger, c'est pareil. Et du coup, aujourd'hui, on a retrouvé quelque chose qui nous a été volé, la vision. La vision. La soif de prière, d'intercession. La soif de la parole. La soif du combat spirituel. La soif pour les âmes. La soif pour la croissance spirituelle et la puissance de guérison qui va entrer ici pour guérir les malades. Moi, je ne veux pas d'argent. Vous savez, l'argent, voilà, je reçois de l'argent de quelqu'un, je vais acheter de l'essence, je vais le donner à quelqu'un d'autre. L'argent, ça circule. L'argent, ça circule. C'est un moyen. C'est un moyen d'échange économique. Mais le pouvoir de guérir quelqu'un, ça ne s'en va pas. Et Dieu donne le pouvoir à une église qui est fidèle, qui suit ses commandements. Et il va lui donner la puissance. Jésus a donné la puissance à ses disciples. Il a dit, je vous donne la puissance, allez et guérissez. Allez guérissez les malades. Et ils sont revenus, oh, enchantés, etc. Et Jésus a dit, je voyais Satan comme un éclair qui tombait du ciel. Parce qu'on lui retire tout son pouvoir de nuire, son pouvoir d'amener le chaos, etc. Voilà. Et il donne à l'Église l'autorité et la puissance pour avancer le royaume. Amen. Ce que je n'ai pas marqué là, mais je voudrais le redire aussi, c'est qu'en fait, à chaque fois, Dieu, en 98 et maintenant, Dieu a choisi quelqu'un, voilà, que je n'attendais pas. À l'époque, c'était Ricardo. Et cette fois-ci, c'était Constant. Hein. Je ne vais pas lui faire gonfler les chevilles. Il est très sage, il sait que ce n'est même pas lui, ça le dépasse. Mais Constant, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu comprends la vision ? Il va vous témoigner mercredi. Venez mercredi, vous allez avoir des témoignages extraordinaires, hein, voilà, qui vont vous être donnés par Charles et Constant. Il a dit, je ne sais pas, je l'ai compris. Alors que quelques temps avant, il y avait un grand communicateur qui m'a dit, écoute André, ta vision, tu la mets à la poubelle, enfin de côté, parce qu'en France, personne n'arrive à comprendre ta vision. Et j'ai dit à Constant, mais comment tu as fait pour comprendre ? Mais je ne sais pas, je comprends, c'est évident. Et même hier, il m'a dit, en confidence, il m'a dit, tu sais André, si toi, tu dévides la vision, moi je ne te suis plus. Moi je suis la vision. Ça vient de Dieu. Ça, c'est vient de Dieu. On n'est pas le fidèle, on n'est pas le loyal à un homme, moi qui suis-je ? Mais moi, je sais qu'il y a une vision de Dieu qui conduit son Église. Et j'ai envie de suivre sa vision, celle que lui, il a pour cette Église, et qui va manifester. Alors, pour terminer, je voudrais juste prier pour vous, pour vous dire que vous aussi, vous pouvez, dans votre cas, demander justice et recevoir la réponse. Mais il faut passer par la repentance. Il faut passer par le fait de ne pas désigner Dieu en quoi que ce soit. Dieu est juste et bon. Mais dire, Seigneur, je sais que c'est Satan qui a fait cette injustice. Et maintenant, je te demande réparation, mais je me repens. Je me repens devant toi. Et là, l'ennemi qui est là, qui vous accuse, vous dit, oui, fais ceci, fais cela, etc. Voilà. Eh bien, la repentance va vous rendre, vous effacer. Et Dieu pourra prendre le gavel et dire, pas coupable. Et ce cas que tu me présentes, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai oublié parce que Dieu oublie, parce qu'il veut faire justice à ses enfants et il veut leur donner ce qui lui ont volé. Je demanderai de fermer les yeux pour ceux qui veulent que je prie pour eux, pour qu'ils puissent aussi rentrer dans ces dimensions. Levez juste la main et je vais prier pour vous. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont aussi victimes d'injustice à leur niveau, Seigneur. Je te prie vraiment que tu les bénisses. Et que, Seigneur, ce que j'ai dit, peut-être maladroitement ce matin, Seigneur, ils puissent le saisir en esprit pour le mettre en pratique. Et Seigneur, saisir, Seigneur, cette cour de justice dans laquelle tu es, où tu veux leur faire justice, où tu veux leur restituer ce qu'ils ont volé. Mais Seigneur, qu'ils puissent suivre les étapes pour reprendre toutes les choses qui ont été volées, afin que, Seigneur, ils puissent vivre dans l'abondance de ta grâce, qu'ils puissent vivre, Seigneur, vraiment libre devant toi, qu'ils puissent se réjouir de toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu juste et qui leur donne tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, je te demande de les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La prochaine fois, j'irai plus loin. J'ai encore beaucoup de révélations sur la justice pour vous aider. Et avec Oscar, on est prêt à prier pour vous, pour que vous puissiez eh bien, vivre dans... Voilà, dans la joie, parce que c'est la joie que le Seigneur veut qu'on ait, et pas la tristesse ou la honte. Dieu vous bénisse.